2019, évidemment, autour de la thématique de l'environnement et du climat, un visage, un livre, un paysage.
Bon, spontanément, l'émergence de Greta Thunberg, et avec les réactions contrastées qu'elle a provoquées.
Certaines abjectes, on peut le dire.
Certaines pour le moins abjectes.
Ouais.
Comme si certains s'étaient sentis humiliés par un discours qui est un discours de vérité.
De colère, même.
Oui, oui. Et en même temps, la nécessité, effectivement, que la jeunesse se fasse entendre, parce que c'est leur avenir qu'on est en train de leur voler, ni plus ni moins. Mais c'est vrai que je trouve que cette jeune femme a quelque chose de touchante, elle est nécessaire. C'est quand même le comble qu'il faille que ce soit nos enfants, ou en tout cas les enfants, qui rappellent aux adultes leurs propres responsabilités. Est-ce que c'est l'ultime moyen pour qu'à un moment ou à un autre, on traduise dans des actes concrets et efficaces l'émergence de notre prise de conscience? Parce que la prise de conscience, très sincèrement, bon, je pense qu'elle est maintenant derrière nous, je l'espère. Oui. Sauf que pour l'instant, elle reste un peu lettre morte, puisque les phénomènes qu'on est censé juguler ne cessent de nous échapper.
On va en reparler. Greta Thunberg, qui a été estampillée, décrétée femme de l'année, personne de l'année, par le magazine Time.
Mais c'est bien, bien, encore une fois, c'est bien si tout ça est assorti d'une écoute et qu'on essaie de traduire l'inquiétude et en même temps l'espoir de cette jeunesse. C'est vrai que j'ai été particulièrement indigné quand on s'en est pris à elle, parce que déjà, certains se sont moqués presque de sa posture. Chacun le sait, c'est une forme d'autisme, donc c'est une sensibilité exacerbée. Et donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'absolument, obscène de se moquer cela. Et puis surtout, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut entendre le fond du message. Voilà. Et parce qu'ils ont raison d'être inquiets, ils n'ont peut-être pas raison d'être désespérés, puisqu'il ne faut pas en être là, mais très sincèrement, on voit bien à l'œil nu, sans être forcément un scientifique avéré ou un observateur attentif, qu'il y a quelque chose, des paramètres qui sont en train d'être totalement bouleversés.
Justement,
Emmanuel Macron vous a déçu ou pas depuis? Est-ce que sa prise de conscience, vous avez pensé qu'elle est avérée?
Vous savez, ça, c'est une question qu'on pose souvent. C'est très compliqué, parce qu'en réalité, il y a des bonnes fois des deux côtés. Mais sauf qu'on n'a pas la même lecture, la même vision. Et je dirais, on ne vit pas les choses de la même manière. Pour Emmanuel Macron, c'est un sujet grave, mais parmi d'autres. Pour moi et d'autres, c'est un sujet qui conditionne tous les autres. Voilà. Et donc, c'est deux lectures très différentes. Et Emmanuel Macron, lui, considère qu'il en a fait plus que son prédécesseur, donc quelque part, il est satisfait. Moi, c'est pas à cette aune-là que je juge les choses. C'est que, est-ce qu'on en fait suffisamment pour faire en sorte que les phénomènes ne nous échappent pas, et est-ce qu'on en fait suffisamment pour protéger les plus vulnérables des conséquences des changements climatiques? C'est la seule question qui prévaut.
Il y a eu quelque chose d'intéressant en 2019, Nicolas Hulot. Au début de l'été, plusieurs voix se sont élevées pour dire qu'il faut interdire les vols aériens, les liaisons intérieures sur des petites distances. Lorsqu'il y a eu le Black Friday il y a quelques semaines, des voix se sont élevées pour dire que c'est insupportable au vu du gâchis et de la surconsommation. Il faut être plus punitif. Pareil avec les SUV, vous savez, ces énormes bagnoles. Il va y avoir sans doute un malus parce qu'elles sont très polluantes. Est-ce qu'il faut en quelque sorte que l'écologie devienne punitive, coercitive, parce que l'heure est grave?
La situation écologique, elle va devenir punitive par la force des choses. On a un modèle économique qui est basé sur une exploitation et une consommation illimitée de ressources limitées. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'à un moment ou à un autre, tout ça va s'effondrer. Donc là, on est dans une période de rareté. L'étape d'après, si par la norme, par la réglementation, par la loi, on ne fait pas en sorte de gérer cette rareté, on passe dans la pénurie. La pénurie, vous le savez, quand il y a déjà une tension sur une matière première comme le pétrole, c'est la guerre. Mais quand vous l'aurez sur des ressources vitales comme l'eau ou les ressources halieutiques, voilà. Donc il va falloir avoir un modèle de croissance et de décroissance sélective. Il va falloir organiser la décroissance des énergies fossiles. Mais il va falloir organiser la croissance de l'efficacité énergétique, de l'agroécologie et du développement des énergies renouvelables, des véhicules hydrogènes. Donc ça, c'est du pilotage. Mais le modèle économique tel qu'on le connaît, qui est extrait des matériaux qui sont eux-mêmes rares, qu'il les transforme et qu'il les jette après un usage la plupart du temps unique, ce modèle-là, il est mort dans l'œuf.
Mais quand vous voyez par exemple que les Verts ont fait un bon score aux européennes et là on leur prête, eh bien au municipal aussi, de bons scores, va remporter des villes. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est un signe encourageant et de prise de conscience?
Non, mais c'est bien. C'est quelque part, c'est un signal qui est donné par la société qu'il y a une attention, une attente, un espoir, une volonté. Mais ce qui est quand même totalement pathétique, c'est que les grandes formations politiques historiques continuent à gauche à sous-traiter un enjeu aussi complexe aux écologistes politiques et qu'à droite, on se pince le nez dès qu'on parle d'écologie. Comment peut-on se prétendre d'être dans la modernité quand un enjeu aussi crucial, aussi essentiel est ignoré par les leaders, notamment, par exemple, de la droite. La droite, on a besoin de l'addition de toutes les intelligences. C'est un phénomène qui est validé par la science, plus personne dans le contexte, qui est d'une rare complexité. Parce que je peux vous dire, personne n'a une vision claire du modèle sociétal, du modèle culturel et du modèle économique qui va nous permettre de combiner les enjeux sociaux, écologiques et économiques. Par contre, il y a un chemin qu'on sait qu'on ne peut plus prendre. Maintenant, il y a un cap à changer. Et là, on a besoin, encore une fois, d'avoir une forme de rivalité positive sur ces sujets-là. Et de mettre ça simplement sur des écologistes politiques, quelle que soit leur qualité, quelle que soit ou pas leur compétence, je pense que quelque part, c'est sacrifier l'avenir.
On a beaucoup parlé de l'agribashing en 2019, problématique qui fait souffrir les paysans. Ils ont le sentiment d'être déconsidérés. Ils sont 3%, ils étaient 30% de la population dans l'après-guerre. Ils nourrissent les Français et ils ont le sentiment qu'on leur en veut, notamment pour les raisons d'épandage de pesticides, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les Français sont-ils ingrats avec les paysans? Et par ailleurs, faut-il mettre de l'argent sur la table pour les aider à changer de modèle?
Justement, ce modèle productiviste. De la politique agricole commune. Une des choses que j'avais demandé avant de quitter le gouvernement, c'est de copiloter la réforme de la politique
agricole
commune.
Vous vouliez être ministre de la PAC?
Pardon?
Vous vouliez être ministre de la PAC?
En tant que copiloter.
Parce que on vous a dit non.
On ne m'a pas répondu, donc la réponse était claire. Mais avec cette, il n'y a pas besoin de plus d'argent. Il faut juste éviter que 70% de la PAC aille dans 30% de la profession. Mais si vous conditionnez de la PAC, l'argent de la PAC à des pratiques environnementales, à une agriculture de qualité, à des produits de proximité, si vous rémunérez les agriculteurs pour protéger la biodiversité, pour produire des énergies renouvelables, pour stocker du CO2 dans les prairies en laissant aucun mètre carré de terre nue et sans plantes, vous pouvez diversifier le revenu. Mais il faut sortir de cette confrontation. C'est moi qui ai voulu les états généraux de l'alimentation. Parce que je pensais que justement, au contraire, il fallait mettre tout le monde autour d'une table et puis apaiser les choses parce qu'il faut surtout stigmatiser personne. Le problème, c'est que toutes les préconisations de la société civile, toutes les alternatives agricoles, on n'en a pas tenu compte. Et en fait, c'est le même modèle que l'on maintient dans une forme de réanimation artificielle. Mais cette stigmatisation, elle est totalement, comment dire, stérile. Parce que les agriculteurs, à part quelques-uns, les agro-industriels, mais la plupart des agriculteurs, y compris les jeunes agriculteurs et les FNSEA, ils veulent changer. Ils ont envie quelque part de redonner de la dignité et de la noblesse à leur métier. Mais pour ça, il faut les y aider et conditionner l'argent de la PAC. Je rappelle quand même, c'est le premier budget européen. Et c'est bien cette vision-là, pour l'instant, qui fait défaut.
Nicolas Hulot. Benjamin.
On nous dit qu'il faut des symboles et des grands événements pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a eu la COP25 à Madrid. Vous n'y étiez pas. Pour quelles raisons, Nicolas?
Pour deux raisons simples. D'abord, parce que je n'ai pas été invité. Mais j'y vois, c'est normal. Et si j'avais été invité, je ne pense pas qu'il serait allé. D'abord, parce que je ne vois pas quel rôle je peux y jouer. Je pense que d'abord, une COP tous les deux ans suffirait, me semble-t-il. Peut-être un format beaucoup plus réduit chaque année, ne serait-ce que pour monitorer les avancées des États. Mais très sincèrement, on voit bien que les COP se suivent et quelque part se ressemblent dans le constat qu'elles font. C'est-à-dire qu'elles ne font que s'alarmer de plus en plus sur le fait que des objectifs... Vous savez, quand il y a eu le coup de marteau de Laurent Fabius à Paris à la COP21, je me souviens très bien au Bourget, tout le monde exultait. Quelqu'un m'a regardé et m'a dit « t'as pas l'air heureux ». J'ai dit « si, je suis content parce que sur un plan diplomatique,